nouvelle semaine, nouveau défi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer et surtout alors que pour cette émission Club de la Presse. Nous sommes au lundi 29 juillet 2024, il sont 11h sur votre radio et vous comprenez que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Nous sommes au premier numéro alors de l'émission pour le compte alors de cette semaine. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou Vitok Betobega est à la mise en onde. Jérôme Akoucha assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous et qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube et aussi Facebook et aussi des radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat, l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Uriel Aignan. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour à tous les Togolais qui nous suivent de par le monde. Bonne semaine à tous.
Bien démarrer la semaine?
Oui, la semaine démarre bien. On lutte chaque jour contre vents et marées, mais le Seigneur étant grand, on se retrouve toujours en bonne forme et puis on continue la bataille parce que nous sommes nés. Pour nous relever à chaque fois qu'il y a une difficulté, on ne baisse pas les bras. On continuera jusqu'à la fin de la vie, on continuera, on ne baissera pas les bras.
Et surtout que la vie même est un combat en soi.
Oui, c'est ça.
Merci d'avoir répondu à l'invitation. Celui-là aussi qui a répondu à l'invitation, que nous appelons affectueusement président. Président, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Bonjour aux techniciens. Un qui est en blanc ce matin, qui signifie que la semaine sera une excellente semaine pour nous.
Une semaine de lumière.
Ah oui.
Donc c'est la pierre sacrée.
Salutations à tous ceux qui sont malades, d'habitude, ceux qui sont dans les hôpitaux, les cliniques qui sont en train de nous écouter, ceux qui traversent des moments un peu difficiles dans leur vie. Leur souhaitons beaucoup de courage. Il faut reconnaître que la vie, c'est un combat. Et nous espérons que dans ce combat, il y a toujours une victoire après le combat. Nos pensées à nos frères et sœurs du Nord actuellement qui traversent des moments un peu difficiles. Mais grâce à Dieu, grâce également à nos prières et au FDS, nous osons croire que la paix, la tranquillité, le vivre ensemble va revenir aussi dans cette localité.
C'est notre souhait, Jacques, puisque nous savons la situation difficile que traversent ces populations au nord du pays. Et donc, nous faisons un clin d'œil à ces populations à travers surtout notre radio partenaire, Radio Courtoisie, qui émet jusqu'à Saint-Cassé et ses environs. Et donc, nous faisons même d'ailleurs un clin d'œil à ces populations qui nous écoutent alors depuis Lomé, bien sûr. Alors, Eric Goka. Oui. Bonjour.
Bonjour Pascal Lesou, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Canal FM.
Comment vous allez?
Je vais bien, je rends grâce à Dieu qui a permis que je puisse souffler une nouvelle bougie le lundi dernier. Et je voudrais donc dire merci, exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont porté, m'ont porté dans leur prière. Merci.
Décidément, tu nous as feinté, on ne t'a pas vu le jour-là. D'accord, chers confrères, nous allons démarrer cette émission avec cette sanction qui a été, ou cette amende alors qui a été infligée à Move Africa Togo. Et Move Africa qui reçoit une sanction de l'ARCEP, l'ARCEP Togo, et cette sanction a été infligée le mercredi dernier. Et Move doit payer pratiquement 1,26 milliard de francs CFA, c'est-à-dire 1 milliard 26 millions, ce qui est en quelque sorte alors 2%, ou ce qui constitue 2% de son chiffre d'affaires. Et Ligoka, vous avez appris cette information, c'est vrai, nous en avons débattu le vendredi dernier, et comment vous avez accueilli alors cette information?
Oui, il faut dire que depuis un certain moment, la nouvelle direction de l'ARCEP travaille à ce que, à mon avis, à ce que des irrégularités au niveau des sociétés de téléphonie mobile ne puissent plus être commises. Et ce n'est pas la première fois, on a vu donc l'ARCEP attirer l'attention de ces opérateurs de téléphonie mobile sur certains dérapages et même allant jusqu'au coût même des unités d'appel. Et je pense que si cette décision est prise, on parle d'une certaine décision qui coûte une nouvelle amende donc à cette filiale. Mais la grande question, est-ce que c'est une réforme générale qui aiderait suffisamment à ce que le service même de téléphonie mobile au Togo soit revu, soit amélioré de manière significative? Les sanctions tombent ici et là, mais à la fin, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on a des résultats?
C'est-à-dire, il n'y a pas de satisfaction au niveau des consommateurs?
Moi, je pense que il y en a pas. Il y en a pas. C'est bien vrai quand vous allez dans les autres pays, la connexion ou le service de télécommunication est beaucoup plus aisé, accessible, je voudrais dire, aux populations. Ici, on a encore du mal à avoir une connexion ou une interconnexion beaucoup plus facile. Et en termes de coûts, il faut que l'ARCEP aille également sur ce terrain. C'est important.
Uriel, Mouva a été sanctionné pour indisponibilité de ses services. Et finalement, ce n'est pas la première fois quand même que ces téléphonies mobiles ou ces opérateurs de téléphonie mobile sont sanctionnés. Mais toujours est-il que les sanctions, après les sanctions, il y a quelque chose qui doit être amélioré. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'améliore?
Bon, là, je ne sais pas, la question, elle concerne la filiale Move Africa Togo seulement ou bien elle concerne tous les opérateurs de téléphonie mobile. La sanction concerne Move Africa Togo qui a failli durant un bon temps. Le réseau n'a pas été disponible dans plusieurs zones du pays. Je pense que Move Africa Togo le sait bien, qui sont suivis de près par l'ARCEP depuis sa création, sa mise en place et son fonctionnement. Si les populations manquent d'un service de qualité, alors que vous êtes implanté au pays pour offrir ce service, c'est tout à fait normal que vous receviez des sanctions. La sanction, à mon avis, elle est tout à fait normale parce que pour quelles raisons vous avez été indisponible aux côtés des populations pour qu'elles puissent communiquer, pour qu'elles puissent émettre des transactions financières et autres. Ah là, il faut vous sanctionner. Moi, le problème à mon niveau ne se pose pas au niveau de la sanction. C'est vrai que vous cherchez à savoir si après la sanction, il y aura amélioration. Je pense bien que c'est le rôle de l'ARCEP. C'est le vrai rôle de l'ARCEP. S'il n'y a pas retour à la normale, ça veut dire que les sanctions vont continuer. Et je suis certain que l'opérateur prendra toutes les dispositions pour remettre à point le service de téléphonie mobile. Ça, je suis certain que c'est le service, le rôle de l'ARCEP. Moi, ce qui me préoccupe et je me pose tant de questions. On dit par exemple que Move Africa Togo doit verser un montant de 1,6 milliard de nos francs. Mais je ne sais pas s'il y a un contrôle pour le dépôt de ces fonds. Qu'est-ce qui nous prouve que ces fonds, ces sanctions, sont l'opérateur sanctionné observe scrupuleusement, respecte et verse le montant qui lui a été demandé de verser en termes de sanctions.
Et puisque après tout, il n'y a pas un compte rendu.
Oui, il n'y a pas un compte rendu.
Et apparemment, ce service d'ARCEP est un service un peu compliqué. Tout le monde n'est pas allé à cette école de contrôle de télécommunications et tout ça. C'est compliqué.
C'est de l'expertise.
C'est de l'expertise en télécommunications. Comment est-ce que ça se passe? Les fonds sont versés sur le trésor public. Ils servent à quoi? c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais on apprend qu'il y a eu sanction, mais on n'a jamais appris quand est-ce que les fonds ont été déposés sur le trésor public. Ou bien nous n'avons pas droit à cette information aussi.
Et je pense que c'est notre droit.
Ouais, et en 2021, d'ailleurs, sanctions ont été appliquées à Move Togo. Donc la question est valable d'être posée pour voir si réellement, une fois les sanctions appliquées, est-ce qu'il y a un retour et est-ce qu'il y a satisfaction au niveau de l'ARCEP. C'est important que la question se pose. Parce que si l'ARCEP annonce qu'il y a sanctions, qu'elles reviennent nous dire que il y a eu sanction, il y a eu satisfaction par rapport donc au montant infligé.
D'accord, merci Elie. Alors Jacques, si tant est qu'il y a une sanction et que finalement il n'y a pas l'amélioration comme les clients l'auraient voulu, finalement les sanctions ne valent plus.
Non, il faut d'abord faire un diagnostic. Pourquoi il n'y a pas la disponibilité de ces services? Il faut se poser des questions. Je ne pense pas que Move Africa puisse avoir un plaisir de ne pas satisfaire sa clientèle. Aucun opérateur au monde ne pourra être là pour dire « Bon, écoutez, j'ai une société, je ne vais pas satisfaire mes clients. » Certainement qu'il y a peut-être les contraintes quelque part. Prenez par exemple actuellement le cas du Nord, où les terroristes là sont en train de sévir là-bas. Supposez que Move Africa ou bien Togocom, ils ont leurs installations là-bas. Ils seront tout le temps attaqués. Ces installations seront toujours détruites à ce niveau. Ça peut arriver également que Move Africa ou bien Togocom n'arrive pas à fournir un service adéquat dans ces localités. Et ça peut créer des pénalités, effectivement, à ces sociétés. Ça peut arriver. Et l'autre aspect, quand on parle effectivement de cette fibre pour couvrir toute l'étendue du territoire, il y a également des contraintes qu'il faut voir. Je ne suis pas ici en train de dédouaner Move Africa ou bien Togocom. Il y a quand même des contraintes. Autre aspect, on sanctionne une société voilà, qui est là, qui fait quand même des efforts pour aider ne serait-ce que nos compatriotes qui travaillent un peu à hauteur de 1 milliard et quelques. Mais vous voyez que c'est beaucoup d'argent. Et vous voyez aujourd'hui les contraintes économiques qui frappent aujourd'hui les sociétés. Moi, je crois qu'il faudrait également chercher un autre moyen pour pouvoir sanctionner ces sociétés-là. Payer 1 milliard actuellement pour une sanction, je ne dis pas que l'ARCEP n'a pas le droit de le faire, mais il faut également voir les contraintes sur l'environnement économique.
Ils ont tout étudié.
Vous comprenez? Donc, même si l'ARCEP a tout étudié, c'est vrai, mais il faut quand même avoir effectivement l'œil sur ce qui se passe actuellement sur l'environnement économique. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas, on n'a pas vu le vrai problème parce que les décisions, on ne les a pas creusées pour voir quel est ce manquement que Move Africa n'a pas respecté. Mais ce que j'ai dit, pour ce qui concerne, par exemple, quand vous prenez les services du Nord aujourd'hui, il y a des problèmes. Ces sociétés-là sont attaquées de gauche à droite par rapport effectivement à ce que nous connaissons, qui détruisent effectivement les installations. Et que par rapport à ces installations, le service, pour fournir le service n'est pas toujours adéquat. Et l'autre aspect, quand vous prenez par exemple la couverture au niveau de l'électricité, ce n'est pas toute l'étendue du territoire qu'il y a l'électricité. Move Africa et Togocom sont obligés d'utiliser souvent les groupes électrogènes pour pouvoir faire fonctionner effectivement les installations. Et qui dit faire tourner les installations au niveau effectivement du carburant, vous voyez également que c'est quand même énorme. Une fois encore, j'ai dit, je ne dédouane pas les sociétés, mais quand même, il faut reconnaître que ces sociétés-là sont quand même en train de faire, parce que, quoi qu'on dise, on a seulement que deux sociétés, hein, Move Africa et Togocom. Donc, il faut vraiment, pour les sanctionner, accompagner-les. Je crois que le rôle aujourd'hui de l'ARCEP n'est pas là seulement pour sanctionner, mais le rôle de l'ARCEP est également pour accompagner. Il faut accompagner ces sociétés-là. Je vous dis, quand vous allez vers l'intérieur du pays, moi je parle, je sais ce que je dis, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Si vous voyez les pertes qu'ils sont en train de subir au niveau de sa localité par rapport aux attaques, parce qu'ils peuvent installer un groupe électrogène à hauteur de 50 millions, en une semaine, ce groupe-là, les gens là font sauter le groupe. Ils peuvent faire des installations, d'une semaine, ils détruisent ça. Moi je crois que quelque part, l'ARCEP c'est son rôle, mais quand même il faut avoir toujours cet esprit d'accompagner les gens. Si vous reconnaissez qu'il y a un manquement grave, c'est votre responsabilité. Vous savez, quand vous prenez par exemple l'ARCEP, vous prenez les radios, les télévisions, nous payons les redevances au niveau effectivement de ces sociétés-là. Mais il arrive des moments où il nous est difficile de payer. On était obligé entre-temps de négocier avec l'ARCEP pour leur demander, ne serait-ce que nous accorder souvent des temps pour pouvoir verser l'argent que nous devons à l'ARCEP. Finalement, ils ont accepté. Donc, je crois que quelque part, c'est une société qui est là pour protéger effectivement le consommateur, mais cette société est également obligée de protéger cette société-là qui fournissent quand même un travail de qualité dans le pays et qui aident également nos populations, certains, à avoir quand même de quoi manger.
D'accord. Nous sommes rejoints par Didier Assogba. Didier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
Tu as un peu la voix cassée là.
Oui, un peu grippé ce matin, donc voilà, mais je suis là quand même, au poste.
C'est l'essentiel.
C'est l'essentiel.
Oui, nous sommes en train de discuter alors de cette sanction infligée par ACEP à Move Africa Togo. Et je lis dans Mega Info ce matin, Mega Info qui écrit « L'ARCEP reproche à la filiale du groupe Atlantique Télécom des manquements graves à son obligation de disponibilité permanente, continue et régulière des services de communication électronique tels que stipulés alors dans son cahier alors de charges, bien sûr. Alors, Didier, une chose est d'infliger alors des sanctions, mais l'autre chose, c'est d'avoir aussi une amélioration et la qualité surtout alors des services.
Bon, moi, je comprends la logique de la nouvelle équipe de l'ARCEP, qui est naturellement de mettre les sociétés de télécommunications ou pas afin qu'elles puissent naturellement remplir leurs obligations vis-à-vis de la population togolaise. Mais au-delà du rôle que joue ARCEP aujourd'hui et son directeur général, Monsieur Gallet, on pourra naturellement questionner la politique même du Togo en matière de télécommunications. Je pense pas d'ailleurs que les interventions des uns et des autres, ils l'ont pas dit, mais c'est naturellement cette politique-là qu'il faut questionner. Quelles sont nos ambitions en matière de télécommunications, sachant que nous avons dit partout que nous voulons être un hub technologique et infrastructurel en Afrique de l'Ouest. Ça suffit pas de le dire, mais quelle est la politique derrière? Quelles sont les actions que nous menons derrière? Si tant est que Élie le disait tantôt, je suivais en venant dans son intervention, au Bénin ici, communiquer est moins cher, l'Internet est moins cher, au Ghana ici, n'en parlons même pas, le giga ne coûte pas très cher chez nos deux voisins ici, et que chez nous ici, les choses sont encore, en termes de télécommunication, les coûts sont encore extrêmement chers, la communication chère, l'Internet encore très cher. On va pas tout le temps tomber sur les sociétés de télécommunication. Il faut naturellement que nous-mêmes, nous travaillons derrière et que nous mettons également en place les dispositions qui permettent à ces sociétés-là de fonctionner. Jacques disait tout à l'heure qu'on a tous connu les épisodes, ça continue d'ailleurs malheureusement, quelques attentats terroristes que nous enregistrons dans le nord du pays. Les terroristes, quand ils viennent, les premières installations auxquelles ils en prennent, c'est naturellement les antennes des sociétés de télécommunication, pour brouiller d'ailleurs les réseaux et empêcher toute communication avec les forces de l'ordre de sécurité. Après, ils mènent leurs attaques tranquillement. Il y en a eu un certain nombre de vandalismes. Je crois d'ailleurs que la société Move Africa a fait valoir cette situation devant les responsables de l'ARCEP, même s'ils n'ont pas tenu compte. Donc oui, je suis d'accord que le réseau doit être disponible un peu partout, mais bon, en termes d'infrastructure, en termes de mise en place, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Est-ce que l'électricité est partout? Est-ce que, voilà, un certain nombre de dispositions sont prises? Après, on inflige des amendes, 1 milliard, 1,26 milliards, c'est ça? Ça fait 1 milliard 260 millions, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que Move pourra trouver l'argent là pour verser au Trésor ou pour verser à ACEP? Bien malin, qui pourra répondre à cette question? Parce qu'après, on n'a pas de suivi, on n'a pas de retour sur cette situation-là. Mais après, est-ce que ce procédé, autant pour moi, n'est pas
en quelque sorte, quelque part, contre-productif. Parce qu'on demande à la société de s'installer un peu partout et de mettre des infrastructures pour que le service soit disponible un peu partout. En même temps, on veut poncer sur ces budgets 1,260 milliards.
C'est rien.
Mais c'est quand même quelque chose. Avec 1 milliard.
2% de son chiffre d'affaires.
Ouais, mais naturellement, mais avec 1 milliard, non, donnons le chiffre. 1,260 milliards, imaginez combien d'antennes on peut mettre dans, je ne sais pas, Diarpanga, Kwenkakandi, parce que c'est la localité la plus connue ces derniers jours. Combien d'antennes on pourra mettre dans ces zones pour que la société puisse continuer à garantir la disponibilité du service.
Je suis d'accord
pour les sanctions, mais des sanctions quand même modérées qui pourraient continuer à
faire vivre. Naturellement.
Ce que je veux dire, je conclue là-dessus. Oui. L'ARCEP doit veiller à ce que elle manipule le bâton et la carotte. Le bâton et la carotte. Pas seulement le bâton, mais veiller à ce qu'il y ait la carotte à côté pour que naturellement le travail puisse continuer et que les sociétés là ne soient pas plutôt enclins, parce qu'elles sont généralement sanctionnées, plutôt enclins à faire des montages dans les services et dans les offres pour je ne veux pas dire escroquer, mais pour gagner plus de l'argent chez le citoyen, alors qu'on veut que les prix soient moins, pour gagner plus de l'argent chez le citoyen, pour aller payer justement cette amende-là. Parce que c'est les clients de Move Africa Togo qui paieront finalement les 1,26 milliards.
Tout à fait.
Pas Move Africa.
D'accord, oui.
Non, je pense que ici, on est en train de chercher à répondre à plusieurs questions, en feintant un peu les questions directes. Vous savez, les sociétés de téléphonie mobile, ce sont de grosses entreprises. Ça, il ne faut pas badiner là-dessus. Ils font de gros sous. Là, ce n'est pas de la blague. Il suffit que nous considérions la chute de Didier. Vous savez, il suffit qu'on nous... Moi, j'emploie ce mot, qu'on nous escroque à 2 francs. Par unité. Mais sur peut-être les 6 ou 7 millions de Togolais ou même 5 millions de Togolais qui utilisent le téléphone, mais ça donne des milliards. Je pense bien qu'on reproche à Move Africa Togo, la société sait qu'il y a une détérioration avancée de la qualité du réseau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer ce réseau, il faut renouveler plutôt ce réseau pour rendre le service disponible pour les populations, pour les consommateurs. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Ils sont des entrepreneurs. Ils gagnent beaucoup de sous. Donc, il faut que le service de télécommunication soit disponible pour les populations. Alors, s'ils ont failli, c'est suivant des critères qu'ils ont été pénalisés. Est-ce que Move Africa Togo aligne les ingénieurs qu'il faut pour suivre leur réseau? Ça aussi, il faut voir. Est-ce que c'est des gens compétents ou on prend tel parce que c'est tel ou c'est parce que c'est tel et à un moment donné, on constate des pannes. Ils ont signalé plus de 30 pannes à l'ARCEP entre-temps. Mais est-ce que c'est la ressource humaine qualifiée qui a été employée ou bien on a employé des gens juste parce qu'on veut minimiser les coûts? Ça aussi, c'est très important. Mais celui qui perd, c'est nous. Je ne pense pas que Move Africa Togo, comme l'a dit Didier, va courir le risque d'empiéter sur les coûts des consommateurs pour payer cette dette, parce que ça aussi c'est suivi par l'ARCEP. Sur le fond, je pense que l'amende verra sera augmentée comme ils l'ont signifié. Là, il ne faut pas badiner, ce sont des grosses entreprises, je le répète, qui font beaucoup de milliards, et quand ils faillissent, il faut les sanctionner convenablement.
D'accord, Jacques.
Non, je crois que vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur l'antenne. Quoi qu'on dise, c'est vrai que Move Africa a failli, mais Pascal souffrait que lorsqu'on va ouvrir effectivement cette boîte de Pandore, on ne pourra pas la refermer. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses. Didier a évoqué tout à l'heure la question même de la liberté qu'on puisse accorder sur la réduction des coûts au niveau, effectivement, de nous, les consommateurs que nous sommes. Si on vous explique également la façon dont les choses se passent, mais vous allez vous poser des questions.
C'est pour ça qu'on est ici.
Vous comprenez ? Pourquoi on peut dire que le Togo et le Bénin sont côte à côte et qu'on dise que le coût, par exemple, téléphonique à Cotonou est moins que celui, par exemple, du Togo. Pour qu'on puisse dire que quand on va, par exemple, au Sénégal pour communiquer, bon, on est libre de pouvoir parler, mais quand on est ici, on a souvent, on est pressé de pouvoir vite raccrocher. En fait, il y a ces paramètres qu'il faut tenir en compte. Moi, je crois que tout compte fait, ce qu'il faut souhaiter pour nos sociétés, c'est que nos sociétés soient viables. Et que ces sociétés-là puissent nous donner effectivement un service de qualité. Et il faudrait également que l'ARCEP puisse effectivement réguler et que l'ARCEP puisse également assister. Parce que si vous êtes là tout le temps à vouloir taper sur la tête des gens, mais finalement, c'est nous qui allons perdre.
Il a dit que c'est le gendarme.
Oui, c'est nous qui allons perdre, au fait. C'est vrai que nous voulons effectivement corriger, mais si on ne sait pas faire pour corriger également, nous risquons également de faire couler effectivement les sociétés. Finalement, ces sociétés-là vont fermer et qui va perdre ?
Il y a d'autres qui attendent.
Peut-être que c'est nous. Vous voyez ? Donc, je crois que le voleur qu'on connaît, vaut mieux de l'entretenir que le sorcier que vous ne maîtrisez pas. Donc, je crois que pour le moment, si on dit que l'ARCEP Move Africa n'a eu pas à fournir un service de qualité, assistons effectivement Move Africa à fournir une meilleure qualité de la communication que nous avons aujourd'hui au Togo, parce que, Pascal, vous êtes sans savoir que plusieurs années, les Togolais ont réclamé que d'autres sociétés viennent, mais elles ne sont jamais venues. Donc je crois qu'il faudrait quand même assister ces sociétés au lieu de pouvoir les étouffer carrément.
D'accord. Élie ?
Oui, je voudrais apporter une certaine réaction avant donc, de clôturer ce sujet, en allant dans le même sens que Didier Assogba, qui relevait le fait qu'il faut définir une politique générale des télécommunications au Togo. Vous savez, aujourd'hui, le Togo se veut un hub touristique, un hub technologique et tout. Mais il faut se poser la question, comme il le disait tout à l'heure, si nous avons véritablement la qualité requise de tout ce qu'il faut pour digitaliser nos services. Parce qu'aujourd'hui, l'État s'est engagé dans la digitalisation des services publics. Aujourd'hui, ce que nous appelons le portefeuille numérique, qui dans les pays occidentaux est beaucoup plus utilisé. Ici également, on commence par prendre les habitudes avec les flous, avec les timonies. Tout se joue maintenant sur nos petits portables, nos petits écrans. Et donc, il est important qu'il y ait une certaine politique générale de la télécommunication au Togo en prenant en compte le bien-être des populations. C'est que quand on parle de télécommunication, il y a plusieurs aspects. Parce que c'est la sécurité même du pays, les télécommunications. Pourtant, il faudrait qu'il y ait politique générale qui puisse prendre en compte et les aspects sécuritaires et les aspects de l'épanouissement des populations, du bien-être des populations au regard de leurs bourses. Aujourd'hui, vous avez peut-être difficile sont ceux qui peut-être de la classe, c'est pas comment les appeler, classe moyenne, qui arrive à faire giga de 15
des forfaits internet et
des forfaits internet par mois. Il le paye peut-être coup par coup 200. Est-ce que ça favorise même la vie des entreprises qui aujourd'hui sont beaucoup plus axées à où mettre tout ce qu'il y a comme service, le digitalise. Il est très important que la digitalisation des services publics et même des services privés, qu'on puisse en prendre compte également dans la définition de cette politique de télécommunication.
D'accord, nous allons clôturer ce sujet.
En souhaitant deux passages que l'État prenne des dispositions pour qu'il y ait plusieurs ARCEP. ARCEP pour la Régie nationale des eaux du Togo, ARCEP pour
l'électricité.
Oui, parce que souvent, quand il n'y a pas de l'eau, personne ne s'en préoccupe. On dit seulement qu'il y a rupture.
Et pourtant, des dommages aussi sont causés.
Oui, des dommages aussi sont causés.
Au niveau de l'électricité également.
L'État pouvait faire à telle enseigne qu'on ait des ARCEP pour tous les secteurs aussi. Je pense que
au niveau de l'eau et l'électricité,
oui, il y a l'ARCEP
qui est là.
Mais bon, qu'on voit de moins en moins.
Tout à fait, effectivement, qu'on voit de moins en moins.
Coucou à notre ami journaliste qui est là-bas.
Oui, Marc. Marc, voilà.
Kouakani Assi. S'il nous écoute, je sais qu'il est un fidèle auditeur de cette émission, donc coucou à lui, donc on fait coucou à Arce.
D'accord. Oui, nous allons quitter le sujet. C'est vrai, Jacques, vous avez évoqué ce sujet tout de suite concernant surtout les attaques. Hein, quand vous parliez même d'ailleurs de des antennes alors de Move qui seraient peut-être installées à dans des localités reculées alors de notre pays. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas cessé alors d'essuyer des attaques alors terroristes. La dernière en date, c'était alors le 20 juillet dernier. Et on sait également le dégât que cela a créé, on connaît le dégât et aussi tout ce que cela a créé comme aussi des pertes de vie humaines. Alors, c'est vrai, quand on voit tout cela, ce qui se passe aujourd'hui et avec ces attaques, ça veut dire que il y a encore, pour ce qui concerne surtout les habitants alors du pays, des localités alors de l'intérieur du pays, on doit toujours également se plaindre, hein.
Je suis d'accord avec vous parce que actuellement la situation au nord, ce n'est pas du tout facile, surtout pour ceux qui sont dans les localités de Kwepakandi, Pendial et autres, ce n'est pas du tout facile, c'est un peu compliqué. Et c'est le lieu d'inviter tout Togolais que nous sommes à l'unicité parce que ce qui se passe actuellement dans ces localités, je vous dis, certains pourront dire que peut-être que c'est là-bas seul, mais on ne sait jamais. Les gens là, ils sont un peu partout. Quand vous voyez un peu ce qui se passe, pas seulement au Togo, vous prenez le Burkina Faso, le Mali et le Niger, un peu partout, vous sentez que les gens là, ils sont partout aujourd'hui. Donc c'est le lieu d'inviter une fois encore les uns et les autres à la vigilance, les uns et les autres effectivement à la solidarité. Parce que Pascal, ce qui se passe des lieux dont je venais tout à l'heure de citer, vous voyez les pauvres femmes, les enfants qui sont là, qui sont obligés de courir, même si le vent apporte une tôle. Ils sont obligés de fuir. Et quand vous voyez par un oiseau qui est en train de voler, parce que l'oiseau est content, les gens ne commencent pas à courir, parce que les gens se disent qu'on ne sait pas si c'est encore eux. Donc, c'est la peur également partout là-bas. C'est le lieu d'inviter une fois encore l'État, parce que c'est eux qui garantissent d'abord notre sécurité. Inviter également les populations à jouer également leur partition. Parce que quoi qu'on dise, Pascal, vous pouvez avoir une armée puissante au monde, mais si vous n'avez pas les renseignements, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la collaboration entre les populations et les forces de l'ordre, cela ne pourra pas marcher. Donc ça doit aller de pair. Et l'armée qui a effectivement les munitions qui sont vraiment armées, et les populations également qui participent à aider cette armée-là à débusquer effectivement ces personnes-là. Parce que s'il n'y a pas cette solidarité, je vous dis, ça ne marchera pas. Nous avons vu ce qui s'est passé au niveau effectivement de ces localités. Et c'est lieu une fois encore d'inviter une fois encore l'État. Moi, excusez-moi, je connais un peu les localités et je sais comment les choses se passent là-bas. Je voudrais une fois encore inviter l'État. Vous savez, Nos compatriotes militaires qui allaient par exemple à des missions au Mali, qui allaient au Libéria et autres, ils avaient quand même des primes. Aujourd'hui, quand vous prenez ceux qui sont effectivement dans ces localités-là, pourquoi l'État ne peut pas avoir ces mêmes primes-là pour ceux qui sont dans ces, au niveau effectivement de ces localités? C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de motiver nos frères d'armes qui sont dans ces localités-là. Et autre chose, c'est-à-dire que lorsqu'ils tombent sur ces champs de bataille, il faut qu'on puisse les honorer. C'est-à-dire qu'on peut...
Et qu'il y a un hommage national.
Il faut le faire. Hein? Il faut les honorer. Parce que plus vous le faites, vous allez voir que les gens se diront, mais attention, donc si on va sur un champ de bataille, lorsqu'on tombe, on sait quand même que, bon, on a quand même des gens qui sont derrière nous, qui nous supportent. C'est vrai que l'État a fait un blackout sur la communication des attaques, de ceux qui tombent souvent sur le terrain. Ça, c'est une stratégie également de l'État. Là, on ne peut pas rentrer dans ça. Mais lorsque nous avons des compatriotes qui tombent sur le champ, il faut quand même les honorer. Parce que la fois passée, vous savez, les choses ont circulé sur les réseaux sociaux. À un moment donné, les gens se sont dit non, que c'est faux. Mais c'est quand le général Tiani a envoyé le message au chef de l'État pour lui souhaiter les condoléances par rapport aux FDS qui sont tombés, que les gens finalement ont cru qu'effectivement il y a eu attaque au nord. Vous voyez, donc, si le gouvernement choisit l'option de ne pas communiquer, mais lorsque, par exemple, il y a des gens qui tombent, que l'État puisse avoir quand même l'amabilité de pouvoir effectivement honorer les soldats qui tombent.
D'accord. Didier, choisir l'option alors de ne pas communiquer, est-ce que c'est aussi productif?
Bon, je suis pas autorité, du moins pas encore, mais si on souhaite. Mais moi, j'ai déjà donné ma position par rapport à cela, à cette option de ne pas communiquer. Ne pas communiquer, pour moi, c'est contre-productif et ça ne mobilise pas la population autour des FDS, naturellement, dans cette lutte contre les groupes armés terroristes. Parce que, figurez-vous ce que décrivait Jacques tantôt. On a eu plusieurs fois des alertes. Et ce que moi j'ai compris, et selon les informations que j'ai, chaque fois qu'on a de ces alertes et de ces annonces sur les attaques terroristes, c'est naturellement des FDS ou une cellule des FDS qui envoie justement cette note-là pour informer un certain nombre d'unités et un certain nombre de personnalités. Et naturellement, ça tombe dans le domaine public et ça circule sur les plateformes un peu partout. Mais bien malin, puisque c'est pas généralement sourcé, bien malin qui pourra reprendre et dire que ça vient justement de l'armée. Et donc du coup, même quand c'est des choses passent comme ça, les gens multiplient par zéro parce que les gens se disent mais les autorités ne communiquent pas sur le terrorisme, sur les attaques terroristes, et donc ça ne vaut pas la peine de donner du crédit à cela. Mais ma foi, c'est pas bien du tout, parce que au moment où les populations se disent que non, c'est fake news, et que le terrorisme, on l'a déjà vaincu chez nous, et qu'il n'y a plus des attaques terroristes, que tout va bien chez nous au pays, ben, même s'ils ont des indices, même si il y a les habitants ou les citoyens ont des indices, ont des éléments qui pourraient renseigner les forces de défense et de sécurité, qui pourraient aider les autorités à répertorier un certain nombre de cellules dormantes de ces gens-là, ils ne donneront pas, ils ne communiqueront pas et ils n'auront pas la facilité d'aller vers les forces de sécurité pour signaler un certain nombre de choses. Et là, ça devient dangereux. Ça veut dire que, vu qu'on ne veut pas communiquer dessus, les terroristes vont venir cohabiter avec nous dans des maisons, dans des zones, dans des quartiers. On pourra les voir. Ils peuvent sortir, aller faire des activités suspectes et revenir tranquillement. Mais bon, puisque l'impression qu'on donne sur le plan national, c'est que on n'a pas de problème de terrorisme, que tout est vaincu. Je crois fondamentalement que ça n'aide pas à mobiliser la population autour. Il faut jouer dans la transparence dans cette affaire. S'il y a attaque, dites qui attaque. Si on a maté les terroristes, dites que nous les avons matés. Je crois que c'est ce que font tous les autres pays. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso. C'est ce qu'ils font dans la transparence, dans la communication sur la lutte.
Est-ce que ce n'est pas aussi pour ne pas créer de psychose au sein de la population?
Non, mais de toute façon, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore à l'étape de créer de la psychose ou plutôt à l'étape de, on est devant un fait accompli et il faut mobiliser la population pour lutter contre? Moi, je pense que nous ne sommes pas à l'étape de, on veut créer la psychose. L'étape de la psychose s'est déjà passée. Et on est à une étape où on est déjà devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays enregistre des attaques terroristes. Alors, la question qui se pose, c'est comment nous faisons pour mobiliser tous les Togolais, toutes les couches de la société togolaise, pour naturellement aider les forces de défense et de sécurité à lutter contre ce phénomène. Donc, si on est encore dans les raisonnements de non, on ne veut pas créer la psychose, on ne veut pas faire la com aux groupes armés terroristes, je pense qu'on a tout faux. Parce que l'effet derrière, c'est de donner l'impression qu'on n'a pas ce problème et qu'on aille plutôt vers la gangrène, parce que les populations ne se sentiront pas concernées par ce qui se passe, et là, ça deviendra très dangereux.
D'accord. Et c'est vrai que l'État fait alors des efforts, et l'État doit continuer à faire des efforts pour lutter contre le terrorisme. Et vous parlez même d'ailleurs dans votre journal aujourd'hui, alors vous écrivez sécurité des numéros verts pour signaler toute suspicion, et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on pourra facilement signaler des suspicions quand il y a lieu de les signaler.
Oui, Pascal, je ne sais pas si on ne se comprend pas. Nous demandons à l'État de communiquer ou bien aux autorités de communiquer sur quoi? Sur les attaques ou bien communiquer pour dire que le phénomène est réel, il existe, il est menaçant.
Mais sur les attaques aussi, des chiffres qu'on veut justement, parce que nous voyons déjà ces chiffres alors circuler sur les réseaux sociaux, mais quand ça vient alors d'une voie autorisée, je pense quand même que on prendrait encore plus alors on donnera plus de sérieux à cela.
Non, je pense même qu'à chaque fois qu'il y a attaque, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, nous savons tous que c'est du sérieux. Tout ce que nous lisons, tout ce que nous voyons, des fois même, c'est avec la localisation de l'endroit où il y a eu attaque. Je pense que c'est déjà
mais du sérieux. Mais Uriel, non, disons la vérité. Est-ce que les réseaux sociaux constituent quand même les voies officielles pour diffuser l'information?
Non, ça n'a jamais été écrit pour dire que c'est une information diffusée par l'autorité.
Oui, mais on veut vraiment la voie officielle.
Non, vous savez, on va faire un peu attention. C'est une stratégie de l'État. Je suis d'accord, lorsqu'il y a attaque et que les gens tombent, il faut faire quelque chose en faveur des familles et de ceux-là. Mais la communication dont nous parlons aujourd'hui, c'est elle-même, si on ne fait pas attention, c'est elle-même qui va créer la psychose dont tu parles. Imaginez aujourd'hui, on dit il y a eu attaque, il y a eu 15 morts. Les corps sont en direction d'eux. Demain, il y a deux semaines après, une semaine, trois jours après, il y a eu attaque, il y a trois morts. Un corps est en direction de l'autre est ici. Le lendemain, on dit on a égorgé une personne, deux personnes. Mais je vous assure, si on adopte cette forme de communication, on ne va pas s'en sortir. Les numéros verts dont nous parlons, je pense que nous pouvons les utiliser. C'est une situation très délicate. C'est une situation très délicate. Et si on ne fait pas attention, c'est dans cette façon d'informer qu'on va fournir plus d'éléments à l'adversaire. Mais l'adversaire lui-même, là, comme le disait le président actuel du Burkina Faso avant-hier, combien de fois les terroristes ont fait le bilan de ces éléments qui sont tombés? Depuis qu'ils sont terroristes, combien de fois ils sont sortis quelque part pour dire « Aujourd'hui, nous sommes allés attaquer, mais en attaquant, nous avons rencontré la riposte et parmi nous, il y a tel nombre de tombés. » Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi c'est nous qui allons avancer ces chiffres toujours? Moi, je pense que c'est une stratégie sécuritaire. Ce n'est pas pour dire qu'on ne respecte pas tel ou on ne respecte pas tel. Non. C'est une stratégie. En livrant, moi, je dirais même que par rapport au numéro vert qu'on nous a envoyé tous pour les exploiter lorsqu'il y a des cas de suspicion, je pense même que ces numéros verts, si on pouvait même faire à telle enseigne que nous les ayons, sans que cela ne soit même public, c'est mieux. Qu'est-ce qui prouve que les terroristes ne peuvent pas utiliser ces numéros verts? Parce qu'ils sont partout. Un terroriste peut prendre ce numéro, t'appeler pour te dire qu'il y a un cas ici, mais le temps que tu n'arrives, il tire sur toi. Vous voyez? Donc, aidons, contribuons tous à attirer l'attention de l'autorité que ça, vous avez proposé, c'est bien. Mais il y a aussi des risques derrière. Je pense que c'est encore mieux. Sinon, communiquer, je vous assure que je ne suis pas pour. Ça va même créer plus de soucis.
D'accord. Élie, est-ce que déjà pour que les populations soient plus alors impliquées dans cette lutte, est-ce que ces populations n'ont pas besoin d'informations?
Vous savez, la communication de crise, notamment au niveau sécuritaire, impose une certaine complexité. Et au début de cette crise terroriste contre le Togo, nous avons eu l'ingénieuse idée d'échanger avec un certain nombre d'acteurs au niveau des forces armées sur cette question. Comment même nous, journalistes, nous pourrions aborder ces sujets, cette question dans nos colonnes, sur nos antennes. Et nous avons quand même, au cours de ces échanges, compris qu'il y a une certaine délicatesse par rapport à la façon dont les services de défense peuvent communiquer sur ces sujets. Vous savez, la grande muette, c'est comme ça on l'appelle. Elle est souvent muette parce que tout ne se dit pas dans l'armée. Il faut avoir des informations qu'il faut contenir pour pouvoir avoir peut-être de l'avance sur les ennemis. Mais dans ce cas, du moment où des informations se retrouvent sur les réseaux sociaux, créant ainsi de la spéculation, je pense qu'il faut nécessairement qu'il y ait une certaine organisation communicationnelle autour de la chose afin de permettre que l'essentiel ou quelque chose soit quand même dit aux populations. Qu'on leur apporte un certain message, même si on ne dit pas tout. Parce qu'ils ne pourraient pas tout dire. On ne leur demande pas de tout dire. Mais du moment où les réseaux sociaux spéculent sur ces informations avec des images, avec des vidéos, et d'autres même exploitent ces informations contre les efforts fournis par le gouvernement. Je pense qu'il est important que le gouvernement prenne la mesure de la chose pour créer ou mettre en place une stratégie de communication. S'il y a des attaques, comment nous devons communiquer? Qu'est-ce qu'il faut communiquer? Je pense qu'il doit avoir une certaine science autour de la chose pour pouvoir rassurer les populations. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est cette mobilisation dont parlait tout à l'heure le doyen Diakouti. Il faut qu'il y ait une certaine sensibilisation, mobilisation, afin d'impliquer tous les citoyens dans ce combat contre le mal. Parce que les renseignements constituent l'élément fondamental de la survie de l'État dans ces périodes. On a besoin de chacun de nous, on a besoin de tous les citoyens. Et il faut renforcer cette sensibilisation, mettre en confiance les populations, les citoyens, afin que ces citoyens puissent leur mettre de la puce à l'oreille dès qu'il y a quelque chose. Parce que ces messieurs qui viennent, ces terroristes dont nous parlons, c'est des personnes qui parfois traînent dans le nord là-bas, et on ne peut pas les identifier comme cela se doit. Mais en sensibilisant suffisamment les populations, ils pourraient avoir des éléments qui leur permettraient de dire, il y a des situations suspectes qui nous obligent à vous faire part donc de ce qu'on a vu, de ce qu'on a constaté, ce qu'on a écouté dans les bars, dans les maquis. C'est important qu'on recrée cette fois-ci cette communion entre les populations. Parce que je voudrais terminer pour dire
rapidement.
Oui, pour dire que il est important de le faire, surtout après avoir dans cette situation où on a une certaine confusion entre la situation politique du pays et la situation sécuritaire du pays. Il y a une certaine confusion qui se joue actuellement. Et il est très important que le gouvernement clarifie les choses.
Oui, Jacques, c'est vrai que ce n'est plus une question nationale, mais c'est une question en quelque sorte transversale, transnationale, de telle enseigne que, alors, c'est toute la sous-région ouest-africaine qui est aujourd'hui minée par ce problème. Mais finalement, qu'est-ce que la CEDEAO attend pour qu'on ait plutôt une force quand même qui peut lutter contre le phénomène?
Non, Pascal, il faut laisser la CEDEAO. C'est-à-dire qu'il faut oublier la CEDEAO, revenons au Togo. C'est-à-dire entre Togolais. C'est-à-dire que cherchons les solutions entre nous.
À l'interne.
Oui, à l'interne. Laissons la CEDEAO. La CEDEAO a également ses problèmes. Vous savez, Pascal, il faut remonter à ces attaques terroristes au nord. Qu'est-ce qui a créé ces attaques? Et qu'est-ce qui fait que ces attaques-là continuent? Il faut chercher effectivement ce qui s'est passé. Nous savons ce qui s'est réellement passé quand le Togo a été attaqué pour une première fois. On sait ce qui s'est passé. Et quand vous écoutez les uns et les autres, je crois que la crise est partie de là. Et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et comment faire pour remédier effectivement à ce problème? Prenez par exemple le cas du Ghana, la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas remarqué que le Ghana, la Côte d'Ivoire sont moins attaqués que le Togo et le Burkina et les autres pays? Il faut se poser des questions. Il faut se poser vraiment des questions. Pourquoi le Ghana est moins attaqué? Pourquoi la Côte d'Ivoire est moins attaquée? Et que c'est le Togo, le Burkina et les autres pays qui sont plus attaqués? Il y a un problème. D'aucuns vont me taxer peut-être du fait que ce que je vais dire,
c'est ton point de vue.
Voilà, oui, justement, c'est ton point de vue. Mais vous savez, c'est ton analyse.
À un moment donné, Pascal, vous savez, même avec votre pire ennemi, il faut discuter avec votre ennemi. Il faut discuter avec lui pour voir qu'est-ce qui se passe. Moi, ce que je voulais dire, on a parlé tout à l'heure de mettre en contribution les populations. Qu'on mette en contribution les populations et qu'on puisse infiltrer effectivement ces gens-là pour savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que le Togo vous a au fait de faire, qu'est-ce que vous attendez du Togo, et qu'ils nous disent réellement ce qu'ils attendent des Togolais, et que le fait qu'ils puissent nous libérer. Uriel disait tout à l'heure qu'il ne faut pas communiquer, c'est vrai, mais vous voyez ce qu'ils font. Lorsque vous avez vu l'attaque du Nord la fois passée, c'est eux qui ont filmé
tout à fait
tout ce que nous avons vu sur les réseaux là. ceux qui ont filmé, qui ont balancé. Et ça fait vraiment mal hein, qu'ils attaquent et qu'ils soient là encore en train de filmer et qu'ils balancent sur les réseaux sociaux. Ça fait vraiment mal de voir nos FDS coucher et puis d'une façon, ça c'est vraiment, c'était vraiment ahurissant. Et inviter une fois encore l'État togolais. C'est vrai qu'il y a les armes, on achète ici et là, mais il faut acheter également les armes de qualité. Parce que je ne peux pas comprendre, Pascal, qu'on puisse dire qu'on est venu attaquer une base, on a vu les images pendant des heures, qu'un drone ne puisse pas décoller quelque part, ou qu'un hélicoptère ne puisse pas décoller quelque part pour venir effectivement au secours de ces militaires. Il y a un problème quelque part qu'il faut revoir. Il y a la stratégie de nos FDS, il faut également une stratégie de nos populations, une stratégie également collective des populations que nous sommes pour pouvoir échanger avec ces gens-là. Il ne faut pas dire seulement que c'est des sauvages. De quoi diront que c'est des sauvages, c'est des bandits, c'est des gens avec qui il ne faut pas du tout parler.
Mais ils continuent de frapper.
Et oui, ils vont frapper. À un moment donné, aujourd'hui, quoi qu'on dise, Pascal, Hitler également a ses partisans, hein, le reconnaître, quoi qu'on dise. Donc, à un moment donné, pour que le Togo soit en paix, si on peut les infiltrer, qu'on puisse les parler, voir ce qu'ils veulent au juste, qu'est-ce qu'ils attendent du Togo pour nous libérer, qu'on le fasse, et puis bon, on est tranquille, quoi.
D'accord, mais c'est une chose. J'avais la parole.
J'avais la parole.
Non, en fait, ce qu'il faut dire, je crois que ce que nous faisons ici, nous ne serons pas invités naturellement dans les officines pour donner nos points de vue ou pour dire ce que nous pensons de la situation, nous ne pouvons que le dire ici. Après 2 ans, je crois qu'on a connu, on connaît la première attaque, nous l'avons connue en 2021, novembre 2021, jusqu'à ce jour, ça fait bientôt 3 ans, mais sur au moins 2 ans, on a opté pour la stratégie actuelle que nous questionnons, de ne pas communiquer sur les attaques et tout ce que nous connaissons dans le nord du pays. Quel est le résultat aujourd'hui? Le résultat aujourd'hui, c'est quoi? C'est une démotivation, une démobilisation naturellement des populations qui, bon, comme je le dis, qui ont l'impression de ce que nous avons vaincu la situation là-bas. Alors, est-ce que aujourd'hui, par rapport à novembre 2021, la situation qu'on avait là dans le nord du pays, en novembre 2021, par rapport à aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous établir? Voilà la question que nous posons. Est-ce qu'en novembre, est-ce que maintenant nous avons un mieux-être au nord du pays que par rapport à novembre 2021 où après, à la suite de l'attaque, on avait communiqué, on avait demandé une mobilisation nationale autour des FDS pour communiquer, pour donner les informations et tout. Et par rapport à la stratégie qu'on avait adoptée par la suite de dire c'est l'omerta totale, on ne communique rien aujourd'hui là. Est-ce que les terroristes là, ils n'ont pas fait des attaques près de Mango? Ils ont fait des descentes près de Mango. Alors que en novembre 2021, on parlait que de Kwek Makandi. Bon, la question que nous posons aujourd'hui, est-ce que nous avons vaincu le terrorisme? Est-ce que nous avons moins de problèmes de terrorisme que par rapport à novembre 2021? Et par rapport aux informations qui circulent, de ce que, je crois, pour moi, moi je suis togolais, pour moi, des fois, je suis frustré qu'il y ait une situation chez nous, que c'est le président du Niger qui envoie un courrier qui tombe dans le domaine public pour rassurer justement les gens ou pour confirmer aux gens qu'on a des situations en interne chez nous. Quel respect nous avons pour nous-mêmes, pour nos populations, quel orgueil nous avons en tant que citoyens togolais où des choses se passent chez nous, on veut cacher, et c'est des gens de l'extérieur qui informent finalement nos populations de ce qu'on a des difficultés en interne. Je crois que cette stratégie est contre-productive à ce niveau-là, et surtout avec des informations qui passent sur les réseaux sociaux, avec des images de nos FDS attaqués ou couchés, morts, des photos, des vidéos, et on ne peut pas avoir juste une version officielle, ne serait-ce qu'un mot de condoléance pour demander, je sais pas, une compassion nationale, un deuil national sur le sujet et rappeler encore la nécessité d'aider les forces de l'ordre et de sécurité dans ce combat-là. Motiver la police de proximité, une coproduction de la sécurité nationale, moi je pense que cette stratégie est à questionner à plusieurs titres parce que, ma foi, elle n'a pas donné de bons résultats aujourd'hui. Parce que l'impression que nous avons nationalement, c'est que, oui, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de problèmes de sécurité ou ni de terrorisme. C'est le sentiment qu'on a eu en un moment donné jusqu'à ce que.
D'accord.
Oui,
je pense que Didier a tout à fait raison parce que s'il faut évaluer, ça il faut être franc, s'il faut évaluer depuis novembre 2021 jusqu'à cette date, quelle a été l'évolution ou la régression par rapport à nos stratégies de défense et des limites du phénomène. Je pense qu'on a régressé. Ça, il faut être courageux pour le dire parce que depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, nous continuons par connaître des attaques, des morts, des déportés, des disparus, tout confondu. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas encore connu le succès. Mais moi, j'ai dit, il faudrait qu'on accorde si possible. C'est vrai qu'il y a l'urgence sécuritaire qui couvre toujours la région des savannes. S'il faut prioriser ces secteurs-là, s'il faut le prioriser carrément, dire nous allons mettre les moyens forts pour sécuriser cette région-là, combattre ces voyous-là. Et quand on va en finir, là, il faut un combat sérieux, une utilisation des moyens très sérieuse. Là aussi, nous avons des problèmes. On a des problèmes partout parce que on peut mettre des milliards pour combattre. C'est demain seulement vous allez apprendre que les milliards mis pour gérer la sécurité dans les savanes ont été détournés par ici, ça a été géré comme ça. On parle de la grande miette, mais nous comprenons, nous entendons beaucoup de choses. C'est pourquoi ce que Jacques venait de dire, je suis tenté de lui dire que je ne suis pas d'accord que les images que nous avons reçues soient venues de la part des terroristes. Je ne suis pas d'accord. Parce que ces images sont toujours accompagnées par le message qui nous informe qu'il y a eu attaque, qu'il y a eu tel bilan. Vous savez, si vous m'envoyez quelque part et je me trouve confronté à une situation très difficile, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais je suis obligé pour vous prouver de vous envoyer les images de ce que je vis. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Je fais les images, je vous envoie accompagné du bilan ou bien du rapport. Pour vous faire comprendre que je suis dans telle situation et que vous devez me venir en aide. Et ça, c'est clair. Ne pensez pas que c'est les terroristes qui ont filmé et nos grands frères très vaillants, combattants. Non. Ça doit être leurs camarades pour vous prouver qu'ils sont dans une situation très délicate.
Personne n'est sur le terrain quand même pour filmer.
Oui, Pascal, oui. Pour finir, moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que disait tout à l'heure Didier. C'est important de communiquer. Communiquer avec l'essentiel, ce qui pourrait être dit.
L'essentiel.
L'essentiel. Parce que ce que ça crée aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, ça crée certaines spéculations. Et ça crée également, ça donne la largesse à un certain. À des acteurs de la société civile ou politique de manipuler ces informations. De manipuler ces informations qui vont jusqu'à décourager même les forces de sécurité. Et ça les décourage. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler aujourd'hui. Je pense que les services compétents de l'armée pourraient travailler ou sont déjà en train de travailler sur ça. Une mutualisation des forces des pays frontaliers là. Burkina Faso, Bénin et puis le Ghana. Non,
mais entre temps, sur la frontière, il y a une telle mutualisation qui a été annoncée
avec le Burkina Faso. Et il faut aller dans ce sens également. Et parce que je pense que ce terrorisme, ce n'est pas né chez nous. Et donc, il faut composer nécessairement avec ceux chez qui c'est né pour pouvoir travailler ensemble contre ce phénomène qui nous jette le drame dessus tout le temps. C'est important.
D'accord. Vous savez, Pascal, autre chose aujourd'hui, vous savez, il faudrait qu'on puisse évaluer également les armes utilisées par nos FDS sur le terrain. Il faut évaluer ça. C'est-à-dire qu'il faut voir quelles sont les armes qu'ils utilisent. Est-ce que ces armes-là sont efficaces pour cette lutte contre ces bandits-là? Parce que une chose est de s'armer, une autre chose est d'avoir également les armes de qualité pour pouvoir venir à bout de ces gens-là. Si on me dit, Pascal, qu'on a attaqué un camp pendant
deux heures.
Et qui ne puisse pas avoir un hélicoptère qui a décollé quelque part, qui ne puisse pas avoir un drone qui a décollé quelque part, mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc, je crois que c'est le lieu. Il faut que les institutions se mettent en place rapidement dans ce pays et qu'on puisse avoir un ministère de la Défense, que l'Assemblée nationale puisse inviter le ministre de la Défense à présenter effectivement le bilan sécuritaire du pays. Le Togo achète ses armes où? Qui sont ceux qui fournissent les armes au Togo pour combattre effectivement ces terroristes-là? Est-ce que ces armes-là sont efficaces pour combattre effectivement ces terroristes-là? Non, c'est des questions qu'il faut se poser. Pas suffisant pas d'avoir peut-être aller acheter des armes peut-être en Russie, en Turquie, on ne sait même pas. Est-ce que ces armes-là sont efficaces? C'est ça le problème.
Si tu permets un mot là-dessus. Si tu permets un mot là-dessus.
30 secondes.
Au-delà de ce que Jacques dit sur les moyens même utilisés, notamment les drones et les hélicoptères pour mater l'ennemi à partir des airs, la question qu'on peut se poser la dernière fois, c'est que durant les 2 heures que nos forces de défense et de sécurité ont été attaquées et qui étaient en détresse, et que des renforts ont été appelés, ou que certainement, ils ont remonté l'information à la base. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de secours? C'est des questions que nous pouvons nous poser en tant que citoyens. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de secours jusqu'à la fin de l'attaque? On a connu autant de pertes, et que l'ennemi a pu rebrousser chemin, au point de revenir le lendemain, selon, d'après les informations, pour ramasser ces quelques éléments qu'il a perdus. Voilà des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans le commandement? Qu'est-ce qui n'a pas passé la dernière fois? Qu'est-ce qui n'a pas passé? Je pense que c'est des questions que nous pouvons poser en tant que citoyens. On a besoin d'avoir des réponses également pour rassurer et pour nous clarifier naturellement ce qui se passe naturellement au front, tant sur le moyen utilisé, les drones, les hélicos et autres choses, et que tant sur le commandement même des forces là-bas, du GILAD, là-bas, et qu'est-ce qui n'a pas marché la dernière fois, c'est des questions et des réponses qui méritent la ressource.
Tout à fait, c'est des questions très importantes à se poser. Je pense quand même que c'est notre rôle en tant que journaliste de détricoter justement cette actualité, et c'est ce que nous sommes en train de faire, bien sûr. Vous aussi, vous qui êtes à la maison et qui nous suivez, vous pouvez aussi intervenir à partir de cet instant sur le 90 86 35 35 91 36 63 75, mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
Petit Bruxelles, avec son dîner blanc de blanc annuel.
L'un des plus grands événements.
Ce samedi 10 août 2024 à Lomé.
Où le glamour se conjugue à la magie.
Gastronomie internationale.
Hommes et femmes venus des quatre coins du globe rivaliseront d'élégance dans leurs tenues blanches les plus raffinées.
Congo.
Avec Déborah qui enchantera la soirée. La Côte d'Ivoire. Le magnifique.
Le Brésil avec Brasilia.
Togo. Saint-Trinos, Raphaël.
Un voyage nostalgique dans les années 90. Ne manquez pas cette occasion unique
de vivre une soirée de prestige, de rencontres et de retrouvailles
dans une atmosphère chic et festive.
Réservez dès maintenant.
After Party, discothèque au rendez-vous.
Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, Sikavi, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée.
Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box.
Miaou? Comment ça?
Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de méga, hein, HM4 et 30 jours sur 30.
Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique Canal Box, hein?
Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites.
Gratuites? Comment, ma?
Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs.
Je veux avoir ma Canal Box.
Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vive l'internet illimité.
Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à Haut de gamme de Canal Boutique. Costume, 2 ou 3 pièces. saharienne. Blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. À haut de gamme de Canal Boutique, vous trouverez des parfums de grande qualité. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lodato. Contact 90 77 97 07.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu, les contacter sans difficulté. GoAfrica Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Cet été, préparez-vous pour une expérience unique à la 4e édition de The Gathering, l'expo-vente qui vise à accroître la visibilité des entrepreneurs locaux et les micro-entreprises. Le thème de cette année, The Greatness of Africa, un hommage à la richesse de notre culture, à nos talents exceptionnels et à notre gastronomie savoureuse. Venez découvrir des exposants venus des divers horizons d'Afrique, mettant en avant leurs produits uniques et authentiques. Pour cette 4e édition, nous avons choisi un lieu emblématique et exceptionnel. Préparez-vous à découvrir l'esplanade du stade de Kégué. Oui, vous avez bien entendu, c'est là que nous célébrerons ensemble la grandeur africaine pendant 3 jours inoubliables. Et ce n'est pas tout. L'ambiance musicale sera assurée par les meilleurs DJ de la capitale, vous faisant danser jour et nuit. Les stands sont actuellement disponibles. C'est une opportunité en or pour accroître votre clientèle et faire du chiffre et de promouvoir vos produits auprès d'un public diversifié et enthousiaste. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 228 93 94 15 65 ou au plus 228 92 99 44 85. C'est l'occasion rêvée pour les visiteurs de plonger dans un monde de saveurs, de créativité et de traditions. Rencontrer des artistes, des créateurs et bien d'autres talents africains. Et surtout, dans une ambiance conviviale et festive. Ne manquez pas cette célébration de la grandeur africaine. The Gathering, 4e édition du 9 au 11 août 2024 à l'esplanade du stade de Kégué. Nous vous y attendons nombreux.
13.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi. Vous pouvez maintenant nous appeler sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est pour intervenir dans l'émission d'aujourd'hui. Allô? Allô, bonjour. Allô? Décidément, il est parti. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sûr, c'est deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce lundi. Allô? 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est à travers ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô? Décidément, Michel, il semble que nous avons quelques soucis techniques, mais je sais que les dieux de la technique sont avec nous et nous allons recevoir justement notre premier auditeur sur le 90 86 35 35. Allô? 90 86 35 35 91.
Allô?
36, voilà. Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur Niamavor.
Niamavor, excusez-moi, je n'ai pas le retour.
Oui, monsieur Niamavor.
Je voulais contribuer à ceci. On ne peut pas cacher l'hernie, hein, à la face du monde. Et surtout, le guatre. Hein, ce qui se passe dans les savanes, n'est pas quelque chose à cacher. C'est ouvert avec les réseaux sociaux que l'État fasse tout pour communiquer, pour dire au moins ce qu'ils ont comme efficacité. Aussi, je félicite les journalistes, surtout Victoire FM, que nous sommes, n'est-ce pas, dans un pays où celui qui dit la vérité, on lui coupe la langue. Voilà. Donc, nous sommes comme les oiseaux libres dans la cage. Bonne émission.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Nyamavo, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô? Il semble qu'il n'a pas de retour. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Bonjour, monsieur Pascal.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vous appelle depuis la Kiko.
Pardon, depuis? Allô? Allô?
Akebou.
Ah, depuis Akebou. Oui, allez-y.
Oui, le problème des forces de sécurité au Togo, c'est que les gens ne veulent pas créer les conditions nécessaires pour les Togolais. Parce que au moment des attaques, toutes les forces de sécurité étaient à Kara pour les Evala. Comment on peut laisser le nom comme ça avec l'agent de guerre qu'il y avait là-bas? C'était où? C'était, je serais déployé vers la protection du président. Est-ce que le président est plus... il n'a pas besoin de... qu'on déplace tout vers lui. Vous voyez? Donc, on ne peut pas nous dire qu'on ne doit pas communiquer. Nous avons le droit à la communication. Et puis, il faut que les journalistes disent au gouvernement de dire la vérité. Sinon, c'est opaque. Obscur et c'est méchant. Bonjour.
Alors, allez, bonne journée. Je n'ai pas eu votre nom quand même. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Décidément, il n'a pas de retour, hein, aussi. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est...
C'est Magloire.
Magloire, vous nous appelez de quel quartier?
De Nikonakwe.
De Nikonakwe. Magloire, diminuez un tout petit peu le volume de votre poste qui est à côté de vous.
Oui.
Allez-y.
Oui, en fait, sur les 1 milliard 26 millions... Non, je dis 26 milliards.
Oh, oui.
Ça fait 1 milliard 260 millions. Hein.
Oui, justement.
C'est la remarque que je voudrais faire.
Oui, ça fait justement 1 milliard 260 millions. Oui, oui, justement.
Et non, 1 milliard 28 millions.
Tout à fait, tout à fait. Oui. Merci beaucoup, oui.
Ok, merci.
Merci. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
C'est Armand.
C'est Armand, oui.
Allez-y.
Concernant le problème sécuritaire dans notre pays... C'est vrai que les gens doivent un peu comprendre que concernant la communication, il faut vraiment faire attention. Parce que les djihadistes, comme on l'a vu dans d'autres pays, ce n'est pas des groupes, ce n'est pas un pays qui nous attaque. C'est des groupes, je ne sais pas comment le dire, des groupes, des nébuleuses qui sont là pour terrifier la population. Donc leur but, à bien voir, c'est semer la terreur, la mort, la terreur, de manière à ce que les populations puissent fuir pour les laisser dépendre des zones incontrôlées. Donc, quelque part, ce que moi je vais demander à nos autorités, c'est de faire un peu comme ce que les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de faire. De mettre un système de drones pour que, comme on ne sait pas quand ils rentrent et quand ils sortent, donc pour que au niveau de cette frontière, tout soit bien réglementé et dès qu'on a des indices qu'il y a une incursion, le système se met en branle pour les repousser.
D'accord. Merci beaucoup, Armand, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Ça va. C'est monsieur Mauto.
Oui, monsieur Mauto.
Vous saluez le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue.
L'aspect sécuritaire. Moi, je pense que les dirigeants africains doivent arrêter de faire l'hypocrisie face au terrorisme. On a dit que une balle que vous trouvez peut aider à identifier d'où provient cette arme, à qui il a appartenu, qui on l'a vendu. Et pour que cette histoire de terrorisme a commencé, les chefs de sang, ils ont refusé de faire cette exercice là. C'est pas bien. Les gens tombent comme ça, c'est pas bon. Les gars, on connaît bien qui nous les gars. Et vous connaissez le Togolais, dénonce ça. Ils n'ont qu'à emboîter le pas au Niger et au Mali. Merci, bonne émission.
Merci à toi aussi pour ton intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Pantel.
Oui, votre nom c'est?
Kossi de Sagbado.
Kossi de Sagbado. Monsieur Kossi, allez-y.
Oui. Moi, je voudrais dire simplement que ceux qui disent que l'État ne va pas communiquer, c'est faux. C'est faux problème. Nous ne disons pas de dévoiler la stratégie. Dévoiler la stratégie, c'est autre chose. Communiquer aussi, c'est autre chose. L'État doit communiquer. Dans tous les pays où les djihadistes interviennent, les pays-là, ils communiquent. C'est ça, moi, je voulais apporter. Merci.
Merci beaucoup, M. Kossi, depuis Sagbado. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, M. directeur.
Oui, papa Sibiti.
Moi, à mon avis, qu'on communique ou non, est-ce que c'est ça l'essentiel? L'essentiel, c'est d'éradiquer le terrorisme. Moi, ce que je vois, les gens sont en bas. Les drones que les gens que l'État a acheté, ce n'est pas facile de gérer un État. Mais pourquoi ils ne peuvent pas, mon directeur Pascal, ils ne peuvent pas les localiser. Ils sont en bas, hein, sur la terre. Mais en haut, ils les voient. Pourquoi ne pas circuler, les pulvériser en même temps? Même le Mali, quand le Mali parle, qu'il y a, vous avez vu un réseau social ou comment, sur les réseaux sociaux là, ce qui s'est passé, les Russes par terre, tout ça là. Merci beaucoup. Donc, ils n'ont qu'à éradiquer le terrorisme. Moi, c'est ce que je veux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, papa Sibiti, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Allô, bonjour. Allô?
Bonjour.
Oui, comment vous allez?
Allô?
Oui, il semble que notre ami n'a pas de retour.
Allô?
Allô? Décidément, il n'a pas de retour.
Oui, allô?
Oui, bonjour, comment vous allez?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Allô?
Je n'ai pas de retour.
Décidément, justement, vous n'avez pas de retour. Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Comment vous allez?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Décidément. Et si vous nous appelez, ayez au moins un pouce récepteur à côté de vous, hein, pour recevoir justement ce retour. Hein, 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Pascal.
Oui, comment vous allez?
Ah, très bien.
Diminuez le volume de votre poste qui est à côté de vous, s'il vous plaît.
Allô?
Oui, allô? Votre nom, c'est?
Allô?
Allô, je vous écoute. Votre nom, c'est? Peut-être que vous avez été mal radio à côté de vous. Non. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Allô?
Allô?
Décidément, il semble que c'est au niveau même d'ailleurs de la technique que nous avons un souci. Je ne sais pas, Michel, 90, 86, 35, 35, si vous nous appelez, ayez un pouce récepteur à côté, une radio à côté pour mieux nous écouter. 90, 86, 35, 35, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien.
D'accord, votre nom c'est?
C'est Komi Adewi.
Ah, Komi depuis Adewi, allez-y.
Oui. Je remercie tous les journalistes autour de vous là-bas. Parce que ce que vous dites est très important. Mais moi, ce que je remarque, c'est que nos militaires, je suis certain que sur leur base là-bas, ils acceptent les civils. S'ils acceptent les civils, c'est ces gens, ces civils-là, qui donne certains renseignements à ses ennemis-là. C'est-à-dire, on les filtre, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Lorsqu'on vous filtre, ils viennent là-bas, ils partagent même leur repas avec eux, ils sont comme des amis, ils sont sur le terrain. Au lieu de faire le jeu franc, ils partagent ces informations-là à ces ennemis-là, qui savent à quel moment leur attaquer et pouvoir faire du mal. La manière dont les choses sont passées, même qu'on a filmé tout ça là, moi je dis, comme M. Diapouti le disait là-bas, que c'est les ennemis même qui ont, c'est-à-dire les djihadistes là, qui ont filmé, c'est la vérité. Parce qu'aucun militaire togolais n'a eu le temps de pouvoir être en bon milieu, pour, en bon, c'est-à-dire en bon endroit, de pouvoir filmer. Et pourquoi il n'a pas tiré? Vous voyez? C'est les djihadistes là même qui filment. Et c'est eux qui repartagent cette vidéo-là.
D'accord.
Donc, franchement, qu'ils fassent attention sur leur lieu de travail, c'est-à-dire dans les camps là où ils sont, et savoir qui acceptait là-bas. Sinon, eux, ils sont là, ils trouvent les bonnes informations, ils filtrent ça à ces gens-là, et ils savent à quel moment venir et ne pas être surpris et autres. Donc, qu'ils fassent attention, vraiment, ça gêne, parce que c'est nos frères, c'est nos parents, donc moi, ça me fait mal. Qu'il fasse tout, vraiment condoléances à tout le Togo et puis bon courage.
D'accord. Merci beaucoup, M. Komi, pour votre intervention. Michel, M. Komi, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission, celui qui a appelé, bien sûr. Donc, chers confrères, nous revenons en studio. Oui, Jacques.
Que ce qu'il vient de dire, il faut reconnaître que dans les stratégies de guerre, dans le monde, on vous dira que pour gagner toujours une guerre, la guerre se gagne toujours par surprise. C'est-à-dire que soit l'ennemi vous surprend, ou bien c'est vous qui surprenez l'ennemi. Donc, pour gagner une guerre, c'est toujours comme ça. Il ne faut pas s'attendre à un armement lourd ou autre, mais c'est la surprise. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que les terroristes l'ont surpris, effectivement, nos FDS, et voilà ce qu'ils ont fait. Donc, une fois encore, moi, je crois qu'il faudrait une fois encore la collaboration des uns des autres, c'est-à-dire les populations que nous sommes. L'auditeur disait tout à l'heure que souvent les militaires partagent souvent les repas avec
les
civils qui renseignent. Mais vous savez, Pascal, comme on le dit souvent, vous ne pouvez jamais connaître votre ennemi. Vous pouvez manger avec lui tous les jours. Mais à un moment donné, il peut se retourner quand vous ne saurez pas. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un problème complexe et difficile. Et c'est souvent difficile de gagner toujours une bataille, une guerre asymétrique, parce que vous vivez avec l'ennemi. Tous les jours, vous êtes avec lui, vous ne saurez pas. Moi, je crois que la responsabilité incombe à tout le monde. Ce n'est pas seulement aux militaires. Si les civils pensent que en échangeant avec eux, qu'on vient tuer les militaires, eux aussi, ils vont en pâtir. Parce que nous avons vu les images la fois passée, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est d'abord les enfants qui étaient devant, après, c'est les femmes qui ont suivi, et ils ont commencé par attaquer. Vous voyez? Donc, si on vous manipule en tant qu'enfant, on vous manipule en tant que femme, on vous manipule en tant qu'homme. Mais attendez-vous, lorsque quelqu'un a chanté que lorsque la balle siffle, la balle, l'autre ne reconnaît pas l'ennemi, ne reconnaît pas également qui que ce soit, même le militaire. Mais la balle atteint tout le monde.
D'accord. Jacques, je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Non, je n'ai pas de note de fin d'émission, mais invitez nos compatriotes. Parce que vous avez vu que la France a accordé actuellement les visas pour les homosexuels. Et ce que nous avons constaté...
C'est vérifié.
Oui, mais ils ont accordé l'exil à ces gens. Et ce que nous avons constaté aujourd'hui, la plupart des jeunes s'adonnent à ça. Même ceux qui ne font pas partie de ces gens de
personnes. Pour avoir certaines opportunités.
Pour avoir des visas.
Des
faites attention. Lorsque vous allez là-bas, vous allez subir des pires atrocités. S'il vous plaît, mes chers compatriotes. Ce n'est pas cette façon-là de pouvoir aller en France. Si Dieu vous ouvre une porte d'aller en France, vous irez. Mais ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas cette façon-là de pouvoir vous adonner à ces choses-là pour aller en France.
D'accord. Dizzy ?
Mais je n'ai pas de note non plus. Mais sur le sujet, il y a quelques jeunes qui disent que tous les moyens sont bons pour quitter le pays. Plutôt que de prendre la mer, si il faut se déguiser en homosexuel pour avoir l'asile facilement en France. Les gens sont prêts à tout. Mais maintenant... devant cette annonce, que disent nos autorités elles-mêmes? Quelle réaction officielle a-t-on depuis que cette information a été donnée et que une cour de justice en France là-bas a pu dire que les homosexuels du Togo peuvent avoir l'asile en France? Quelle a été la réaction officielle? Est-ce que nous voulons que tous nos jeunes deviennent ces gens-là pour partir tous en France, devenir ce qu'ils doivent devenir? Je crois que c'est un sujet que nous devons prendre sur le plan national également et sociétal et travailler là-dessus. Nous ne devons pas laisser cette information passer comme ça. Il faut qu'on travaille là-dessus.
D'accord. Uriel?
Ah, je pense que je n'ai pas de notes aussi, mais juste par rapport à la situation actuelle, inviter les autorités à adopter les stratégies adéquates pour lutter contre le phénomène. Cela ne nous convient pas, quelle que soit la raison qui motive ces bandits-là à venir troubler notre vie. Ça ne nous convient pas. Je pense qu'on peut les battre à mort, on peut les renvoyer. Moi, ce qui m'attriste de trop, c'est que quand ils arrivent, ils attaquent les camps. Là où il y a les armes, là où il y a tout, c'est là-bas qu'ils attaquent. Ça veut dire qu'ils sont surarmés, ils sont plus armés que nous. Je pense que nous pouvons les battre. Et c'est des groupes isolés. Les gens n'aiment pas entendre ça, des groupes isolés. Mais nous, c'est un État.
Ils ne sont pas organisés.
Les groupes isolés ne peuvent pas combattre un État. Donc, je pense qu'il faut qu'on les arrose par tous les moyens, qu'on les extermine par tous les moyens pour regagner la liberté.
D'accord. Élie ?
Oui, Pascal, je n'ai pas de notes. Je voudrais également aller dans le même sens que Uriel pour inviter nos autorités à travailler à ce qu'il y ait plus de stratégies collectives, aussi bien au niveau de la population qu'au niveau de l'armée, pour que nous puissions arriver à combattre, donc je peux l'appeler ces seigneurs de guerre qui nous mettent dans une situation trop complexe, qui vient même à envenimer un peu la situation, disons, économique du pays.
Et qui trouble notre tranquillité.
C'est important pour nous. Nous sommes des Togolais et nous devons nous engager ensemble avec l'État dans cette lutte. Et c'est important qu'on ait des informations qui puissent nous motiver davantage.
D'accord, c'est important qu'on puisse avoir justement des informations qui puissent nous motiver davantage. Merci beaucoup, Élie, d'être passé dans cette émission. Uriel Enyang, merci à toi d'être passé aussi. Jacques Djakouti, merci d'être passé alors dans cette émission. Didier Assogba, merci d'être passé. Et merci surtout à vous qui nous avez suivis aussi, puisque vous étiez très nombreux à nous suivre partout au Togo et aussi dans le monde entier. Et aussi vous qui nous avez appelés, merci à vous. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde alors de cette émission. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve déjà demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.